Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce que dès qu'il y avait une crise, une épidémie, une crise vaccinale, j'étais sollicité. Tous les gens dans les divers gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils m'adoraient. Les journalistes m'adoraient. J'étais invité régulièrement sur les plateaux de télévision, au journal de 20 heures. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai continué à dire la vérité, c'était quasiment du jour au lendemain, j'ai basculé dans la trappe des charlatans. J'étais devenu du mec super qui était capable de conseiller les ministres, qui avait un super CV, une super expérience que tout le monde appréciait. Et d'un seul coup, on m'a jeté à la poubelle.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est encore présenté cette semaine de notre studio parisien. Si vous avez surveillé vos calendriers, vous savez très probablement que nous sommes plus ou moins 4 ans après la pandémie qui a brutalement stoppé nos vies, c'était en mars 2020, et qui les a bousculés durablement depuis, c'est le moins qu'on puisse dire. Une crise sanitaire qui est devenue rapidement une crise de confiance et puis une crise politique qui nous ont, toutes ces crises, beaucoup divisées. Aujourd'hui, le professeur Christian Perronne, ancien chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, longtemps conseiller de plusieurs gouvernements français en matière de santé publique, et puis aussi conseiller auprès de l'OMS pour la politique vaccinale européenne. Christian Perronne, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Plaisir de vous retrouver, parce que j'ai souvenir d'un entretien que nous avions fait en pleine crise en juillet.
Tout à fait, c'était au tout début de la crise.
Juillet 2020. Première question, donc, est-ce que vous aviez une fois dans votre vie imaginé le combat que vous alliez mener?
Aucunement, parce que moi j'étais plutôt à la fin de ma carrière. J'ai pris ma retraite il y a un an et demi à la date prévue, à 68 ans, donc je pensais vivre des jours heureux après ma carrière. Et puis quand la crise est arrivée, je me suis dit, mais ça va pas, ça part dans tous les sens. Et au vu de mon expérience, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je dis ce que je pense à propos des décisions gouvernementales qui me paraissaient totalement ubuesques et déconnectées surtout de la réalité de terrain, de la réalité scientifique.
Ce que vous avez écrit dans 3 livres qui sont parus très rapidement, justement, dans la foulée de la crise, vous disiez que vous aviez peut-être vocation à vivre une belle vie douce après avoir travaillé longtemps. Je me suis même posé, moi, la question il y a quelques semaines avant de vous inviter. Je me suis dit, oh, ça va être galère, parce que d'inviter les COVID-résistants, c'est de s'exposer, en fait, à ce qui est devenu le débat. Y a des gens qui ne vous écouteront pas et sont convaincus que vous êtes dangereux, que votre parole est dangereuse. D'autres nous écouteront peut-être et trouveront que je suis trop critique en vous posant des questions. Avez-vous déjà imaginé un monde où, sur des enjeux aussi fondamentaux, nous puissions être à ce point polarisés et ne plus s'écouter?
Non, j'aurais jamais pensé à ça. Alors, il se trouve que moi, j'ai une carrière d'infectiologue. J'étais professeur de maladies infectieuses et tropicales dans un hôpital universitaire parisien, dans un grand groupe hospitalier public. Donc voilà, j'étais enseignant à la faculté, chercheur. Mais un petit peu par le hasard de l'histoire, j'ai été sollicité à plusieurs occasions pour faire partie de grandes instances françaises. Alors la dernière, c'était le Haut Conseil de la Santé publique, mais il y en a eu plusieurs. J'ai présidé aussi le comité technique des vaccinations, qui est le comité officiel qui fait la politique vaccinale pour la France.
Donc par définition, vous ne pouvez pas vous définir comme anti-vax.
Ben non, parce que j'ai toujours défendu le vaccin, ça bien entendu. Les vrais vaccins, je parle pas de ce soi-disant vaccin Covid, qui est une rigolade, c'est pas un vaccin, mais les vaccins, je les ai toujours défendus. Sauf maintenant, j'ai un peu perdu confiance dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un débat nouveau. Voilà, donc presque à mi-temps, pendant 20 ans ou plus de 15 ans, j'ai présidé les plus hautes fonctions dans des commissions officielles. J'ai rencontré beaucoup de ministres, leurs conseillers, toutes les délégations officielles. J'ai travaillé à l'Agence du médicament, etc. J'ai même été vice-président du groupe d'experts pour les vaccins, l'OMS, pour l'Europe. Alors, l'Europe de l'OMS, c'est la grande Europe qui va jusqu'à Vladivostok, qui inclut l'Asie centrale, l'Europe du Nord, la Turquie, Israël. Donc, c'est une très grande Europe. Donc, pendant des années, j'ai eu la confiance de toutes les autorités des grands pays, y compris de mon pays. Et puis, donc je pense que j'avais le savoir-faire pour pouvoir juger de la crise.
Et vous étiez auprès du pouvoir politique pendant l'essentiel, sinon la quasi-totalité de votre carrière, une référence. On vous consultait, et particulièrement en matière d'épidémie, de pandémie à plus forte raison.
Parce que dès qu'il y avait une crise, une épidémie, une crise vaccinale, j'étais sollicité. Tous les gens dans les divers gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils m'adoraient. Les journalistes m'adoraient. J'étais invité régulièrement sur les plateaux de télévision, au journal de 20 heures. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai continué à dire la vérité, c'était quasiment du jour au lendemain, j'ai basculé dans la trappe des charlatans. J'étais devenu du mec super qui était capable de conseiller les ministres, qui avait un super CV, une super expérience que tout le monde appréciait. Et d'un seul coup, on m'a jeté à la poubelle.
Vous dites « j'ai continué à dire la vérité ». Est-ce qu'il y a un moment dans le parcours où vous avez douté de vous? Parce que ça arrive, moi, dans ma pratique, régulièrement, je me dis, est-ce que j'ai des biais qui me font à répétition m'entêter du côté de ce qui n'est justement pas la vérité ou le réel? Avez-vous eu ces doutes?
J'ai pas eu ce doute. J'ai eu des doutes quelquefois sur moi-même dans ma vie personnelle. Mais là, sur cette histoire professionnelle, j'ai eu aucun doute. Alors, c'est vrai que j'étais habitué au combat depuis une vingtaine d'années pour défendre les malades sur la maladie de Lyme, parce qu'il y avait une histoire militaire derrière, et que la maladie de Lyme, politiquement, n'a pas le droit d'exister, donc on en reparlera peut-être. Mais donc j'ai été habitué à me confronter à mes collègues infectiologues, à des autorités ministérielles, parce qu'ils étaient sous l'influence des Américains, pour dire que la maladie de Lyme n'existait pas. Donc j'avais un peu l'habitude
de vous frotter à de la résistance.
De me frotter, mais c'était pas aussi dramatique qu'avec le Covid, où là j'en ai pris plein la figure, parce que ça, finalement, j'étais une voix, je pense, crédible, qui remettait en cause ce que disait le gouvernement, qui était basé sur aucune donnée scientifique. Et je suis fier de l'avoir fait finalement, et c'est vrai que ça a été difficile pour moi par moment, mais j'ai jamais douté de ce que je faisais.
Je vais vous poser la question très simplement: qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment dans cette crise, parce qu'on est à 4 ans, donc probablement en février, mars ou avril 2020, vous avez senti que vous basculiez, non pas par rapport à vos convictions à vous, mais par rapport à tout ce qu'autour de vous, on était prêt à dire ou qu'on disait?
Ça m'a sauté aux yeux, je dirais, à la première seconde en mars 2020, parce que toutes les décisions prises, en plus, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que les décisions étaient prises par qui? Par des ministres que je ne connaissais pas, mais Agnès Buzyn, je la connaissais. Jérôme Salomon, qui était le directeur général de la santé, après les Français appelaient le croque-mort national, parce que c'est lui qui tous les soirs annonçait le nombre de morts. Et je l'ai connu interne, c'est moi qui l'ai fait grandir dans mon service. Je l'ai nommé professeur dans mon service, donc je le connaissais par cœur. Puis Jérôme, moi je l'ai connu comme un gars bien, qui aimait les procédures. Je dis, avec lui, ça va être fait aux petits oignons, ça va être bien carré. Puis quand j'ai vu que toutes les décisions partaient à l'inverse de ce qu'il fallait faire, j'ai eu un choc. D'abord que j'ai gardé pour moi, puis au bout de quelques jours, je dis, c'est pas possible. J'ai commencé à parler dans les médias.
Qu'on soit bien clair, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous avez à aucun moment de cette crise sous-estimé les dangers liés à la COVID. À aucun moment, vous n'avez pensé que c'était une vue de l'esprit.
Ah non, mais le virus, il a existé. Ben après, je pense qu'il y a toutes les preuves pour voir qu'il était modifié en laboratoire. Bon, on en reparlera peut-être. C'est un virus qui a tué. Il ne faut pas nier qu'il y a eu des morts. Je nie pas la pandémie. Fort heureusement, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient prévu, mais le virus a été moins méchant que prévu, et j'en suis ravi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Il a surtout tué des personnes très âgées, qui avaient plus de 85 ans, ou des personnes qui avaient de gros facteurs de risque, c'est-à-dire des diabètes très sévères, des obésités morbides. C'est pas un petit obèse, c'est un obèse de 150-200 kilos. Des gens qui avaient des maladies cardiovasculaires, respiratoires déjà très sévères, et que le Covid a emporté. Ça, faut pas le nier. Il y a eu beaucoup de morts dans le monde, et faut leur rendre hommage ainsi qu'à leurs familles. Ce qui m'a désolé, c'est que je savais que depuis le début, il y avait des traitements qui marchaient si on les donnait précocement à des doses raisonnables, qu'il y avait des tas de données dans le monde qui le disaient et que la quasi-totalité des gouvernements des pays dits occidentaux ont tout fait pour empêcher ces traitements. En France, c'était même interdit pour les médecins généralistes. Ça n'a pas été interdit à l'hôpital, il y avait beaucoup de restrictions, mais c'était interdit en médecine de ville.
Et là, vous parlez de la chloroquine, sinon de l'hydroxychloroquine. Voilà. On y reviendra si vous le voulez, parce qu'à chaque fois qu'on nomme la chose, en fait, c'est comme Voldemort, il faudrait peut-être mieux de ne pas nommer. À chaque fois qu'on le fait, on entre dans un débat, il y a une étude qui dit à 17 000 personnes au minimum sont mortes à cause de la chloroquine
en France.
Cette
étude, elle est complètement bidon, alors, ça change tous les arguments.
Docteur Perron, une étape à la fois. Donc, avant d'ouvrir la boîte de chloroquine, continuons là où nous étions. Si je peux me permettre, une question très personnelle.
Oui.
Est-ce qu'autour de vous, collègues intimes, famille, à un moment donné, pendant cette crise, vous ont regardé en soupçonnant que vous étiez peut-être en train de dérailler, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec vous?
Clairement. D'abord, mes collègues de l'hôpital qui m'ont suivi à fond pour la chloroquine, parce qu'ils voyaient, on l'avait publié, ce qu'on appelle en pré-impression, en pré-print là, sur Internet, un article qui montrait qu'il y avait une mortalité extrêmement faible, comme Raoult avait à l'IHU de Marseille. Donc, moi, j'étais à l'aise et tous les jeunes étaient à fond avec moi. Et quand on a fait cette pré-publication, ils ont reçu plein de coups de téléphone des autorités de l'hôpital, du ministère. En plus, je pense que Jérôme Salomon venait du service, il les connaissait tous, il les tutoyait. Ils ont eu des pressions en disant « si tu continues avec Perron, ta carrière est foutue ». Et là, ils se sont tous retournés contre moi. Et moi, ça a été très violent. À l'été 2020, alors qu'ils étaient à fond pour moi avant, d'un seul coup, ils m'ont dit « non, Christian, on ne peut pas te suivre, là tu dérailles ». Donc j'ai vécu ça, c'est ça qui m'a fait le plus de mal.
Des doutes à ce moment-là?
Moi, non, j'ai pas eu de doute parce que je savais que j'étais dans la vérité. On voyait les résultats. Et d'ailleurs, les aides-soignants, les infirmiers de mon hôpital, quand on a traité à l'hydroxychloroquine, ils disaient, mais c'est fantastique. Depuis qu'on fait ça, on ne passe plus les malades en réanimation. Ça a été magique.
Donc, vous l'avez fait. C'est-à-dire que vous avez eu ce protocole.
Bien sûr.
Et vous êtes en mesure de dire, sans l'ombre d'un doute.
Sans l'ombre d'un doute. Et on l'a publié. Mais malheureusement, cet article en pré-impression, sous la pression de plein de personnes très haut placées, a été rétracté par les médecins plus jeunes de mon service. Moi, j'ai pas pu aller contre eux, c'était trop violent pour moi, je les ai laissés faire, j'ai peut-être eu tort, mais l'article a été rétracté. Après, ils ont fait une nouvelle version, beaucoup plus édulcorée, on parle plus des morts. Bon, j'ai laissé faire, parce que c'était très difficile pour moi, j'étais seul contre tous à un moment donné. Ils étaient tous manipulés par les autorités au sens large.
Mais c'est possible, parce qu'il y aura des gens pour nous écouter.
Oui.
Je parle souvent de ces gens qui ne sont pas avec nous, mais je les imagine. C'est possible, parce que ça donne l'impression d'être paranoïaque, et c'est pas ce que je dis que vous êtes, mais tous contre moi. C'est donc qu'il a été rapidement possible de convaincre...
C'était pas tous contre moi, parce que tout le personnel du service hospitalier que je dirigeais à l'époque, les aides-soignants, les infirmiers, les pharmaciens, tout le monde, ils étaient à fond pour moi, ils voyaient les résultats.
Mais pas les médecins.
Au début, ils étaient à fond pour moi. Et le jour, ils ont reçu des coups de fil des autorités en disant « arrête », ils ont eu peur pour leur carrière. Je comprends un jeune de 30 ans qui fait sa carrière hospitalière, qui veut être professeur un jour, qui est à fond dans le système. Quand le ministère ou la direction des hôpitaux, l'université l'appelle en disant « écoute Coco, si tu continues avec Perron, ta carrière est foutue en l'air », je comprends qu'ils aient eu peur. Et c'était des menaces contre eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont retournés. Mais je leur pardonne, je leur en veux pas. Peut-être que si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être été comme ça, j'en sais rien. Mais
c'est la question que j'allais vous poser. Si vous aviez eu 30 ans et une vie...
Ça aurait
vie...
été beaucoup plus difficile. Je peux pas dire ce que j'aurais fait, parce que c'est comme les journalistes aussi qui relaient des n'importe quoi, des choses totalement fausses que...
Pas tous les journalistes.
Non, mais certains, pas vous.
J'essaie d'éviter les généralisations.
Non, mais je sais, parce qu'en plus, c'était des amis. Alors, j'étais très copain avec beaucoup de journalistes. Ils m'invitaient tout le temps sur les chaînes majeures. Et ils m'ont dit, Christian, on sait que t'as raison, mais on n'a plus le droit de t'inviter.
Ça vous a été dit comme ça?
Oui, bien sûr. Mais ils m'ont dit, tu comprends, moi, je suis marié, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai fait un emprunt pour payer mon appartement, je peux pas me permettre d'être viré. Et donc, ils ferment leur petite bouche parce que ils ont très peur et beaucoup vivent dans la peur actuellement. C'est ça qui est terrible.
à telle enseigne que l'ARCOM, qui encadre les pratiques dans le monde de l'audiovisuel, apparemment aurait dit, est-ce que c'est apparemment ou est-ce que c'est fondé, que si vous deviez être invité, il fallait absolument que votre parole puisse être contrée. Alors, ce qu'on ne demande pas, évidemment, à d'autres quand ils viennent sur les plateaux.
Alors, c'était suite à... J'avais été invité à un plateau qui s'appelait Les Grandes Gueules, je crois que c'était RMC, c'était la fin août 2020. C'est la dernière fois que je suis passé sur... Bon, j'étais réinvité occasionnellement, je les remercie, par quelques journalistes comme Morandini ou il y a eu Pascal Pro qui m'ont réinvité 2-3 fois, mais sinon j'ai plus le droit d'être invité. Il y a eu un communiqué officiel, alors ça s'appelait pas l'ARCOM, ils ont changé de nom, c'était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puis ils ont changé de nom entre-temps, et fait un communiqué pour dire oui, effectivement, vous n'avez plus le droit d'inviter le professeur Perron si vous avez, il y a pas des gens qui disent le contraire en face. Et pourtant dans l'émission où j'étais, il y avait plusieurs personnes qui arrêtaient pas de me titiller, de dire le contraire de ce que je disais. Donc ça me paraissait bizarre, parce que justement il y avait des contradicteurs. Et à chaque fois que j'avais été invité, j'ai rarement été tout seul. Mais alors, ce qui me choque, c'est que quand vous avez ces médecins de plateau qui disaient vraiment n'importe quoi, que c'était pas basé sur des preuves, ils étaient tout seuls. Et là, l'ARCOM n'a pas réagi en disant pourquoi cette personne n'a pas un débat.
Cette parole n'avait pas besoin d'être gainée.
Voilà. Et c'était juste un coup de fil du gouvernement pour dire, bon, il faut arrêter que Perron... Parce que je sais que je leur faisais très peur, parce que vu ma position, les fonctions que j'ai occupées, ils ne pouvaient pas dire que j'étais un idiot du village. Peut-être que certains l'ont dit sur Internet, mais je m'en moque. Mais j'étais crédible. Et c'est ça qui leur faisait le plus peur.
La famille,
ça a été dur. Bon, ils comprennent, mais au début, ils ne comprenaient pas complètement. Ils avaient peur. Même s'ils comprenaient un peu, ils avaient peur pour moi. Parce que la famille, ils sont comme des proches qui vous aiment. Ils se disent, bon, Christian, il part tout seul en guerre, comme Don Quichotte. Là, je pense qu'ils ont plus eu peur. Et ça a été difficile. Parce que du coup, ils ne me soutenaient pas toujours.
Ça vous a tenté, ça vous est passé par la tête de dire, bon, je ferme ma gueule, puis je vis tranquillou.
Je sais que jusqu'à ma mort, je préfère mourir que de fermer ma gueule. Hein. Ça, c'est clair pour moi.
Qu'est-ce que vous avez compris dont vous n'aviez jamais peut-être vu avant?
Alors, ce que j'ai compris, c'est que moi, je pensais naïvement vivre en démocratie, comme les Canadiens pensaient vivre en démocratie. Et d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas conformes aux règles de la démocratie, qu'on tombait dans une sorte de tyrannie sanitaire sur des arguments qui n'étaient pas du tout scientifiques. Mais on nous faisait croire, parce qu'on réunissait un petit groupe d'experts aux ordres, que soi-disant c'était le consensus scientifique. Et quand j'ai vu que tout ça était manipulé, organisé depuis des années...
Vraiment?
Mais il y a les preuves. Attendez, il ne faut pas être naïf. La couverture du journal Vie Économiste en janvier 2019, donc 9 mois avant la pandémie officielle, il y avait tous les symboles de la pandémie. Il y avait même le pangolin, il y avait le QR code dans la main, il y avait le...
Mais ça peut être aussi un hasard, ça peut
être... Ah non, c'est pas un hasard, parce qu'il y a, il y avait les chevaliers de l'Apocalypse qui étaient masqués, il y a eu l'Event 201, l'événement 201, que Bill Gates, avec des autorités américaines du plus haut niveau, dont l'armée a fait aux États-Unis plusieurs semaines avant la pandémie.
Des simulations.
Oui, en disant, attention, une pandémie va venir, etc. De coronavirus, ils savaient déjà que c'était un coronavirus. Donc, faut pas nous prendre pour... Et quand les fabricants de vaccins qui ont commandé les fioles, les flacons, aux fabricants allemands de flacons en verre avant le début de la pandémie...
Mais est-ce que ça confine pas à une espèce de discours paranoïaque complotiste? C'est pas, encore une fois, ce que je vous reproche. Ou sinon, vous êtes carrément complotiste parce que vous pensez qu'il y a un complot.
Mais ce sont des fêtes. Oui. Moi, je suis pas complotiste. Moi, avant, j'aurais jamais imaginé tout ça. Quand je vois les fêtes, qu'on commande des fioles avant qu'il y ait la pandémie, qu'on déclare la pandémie, ils se sont jamais cachés qu'ils allaient le faire. Jamais. Même aujourd'hui, ils se cachent pas de ce qu'ils vont faire sur le contrôle des populations. Tout est annoncé, c'est leur technique de communication. Donc, c'était dit avant. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait attention sur le moment. On m'aurait dit ça. Vous savez, un Français, on lui aurait dit en septembre, même juste avant Wuhan, en septembre 2019. Ah ben, vous savez, l'année prochaine, vous n'aurez pas le droit de sortir de chez vous, il faudra signer une autorisation, vous serez masqué, vous n'aurez plus le droit d'aller travailler, vous n'aurez plus le droit de voyager. Et ils auraient dit, mais Vous êtes complètement fou, vous êtes complotiste, c'est quoi ce délire? C'est impossible, on est en démocratie. Et puis un an après, ils étaient tous soumis, ah oui, on va tous mourir, parce qu'on nous baratinait sur des chiffres qui étaient manipulés. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Malheureusement, il y a eu des morts, donc je respecte ces morts. Hein. Mais à l'échelon de la population, il n'y a pas eu de surmortalité dans la plupart des pays. Sauf chez
il y en a eu quand même dans certains pays. Mesurer des...
J'ai des gens mais très à risque avec des statistiques souvent faussées, parce que moi je le sais en France, tous les gens qui mouraient, c'était le Covid pendant la crise. Hein. Je le sais, parce qu'on fait... Et puis les tests PCR qui étaient beaucoup trop sensibles, où des gens en pleine forme avaient des PCR positives, tous les gens qui mouraient, ils avaient un test PCR positif, on les mettait sur le... dans les statistiques Covid, ce qui était totalement faux. Donc ça, j'en suis... Je l'ai vu de mes yeux vus, donc ça, j'en suis convaincu.
Je veux terminer le chapitre biographique parce qu'il y a deux développements importants. Vous êtes très rapidement taclé par vos collègues à Garches, à l'hôpital, disqualifié à votre hôpital. C'est littéralement ce qui se passe. On dit que votre comportement est contraire à la dignité de vos fonctions. Sur le coup, vous êtes insulté?
Alors, bien sûr, parce que un jour, j'ai été convoqué par le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Bon, il a changé depuis. Que je connaissais bien, avant j'avais des relations plutôt sympathiques avec lui. Et sa secrétaire m'appelle un soir en disant « Bon, demain matin, il faut être à 7h dans le bureau du directeur à Paris. » Bon, j'y vais. Il me remet une lettre dans laquelle c'était écrit que j'étais indigne de mes fonctions de chef de service, en particulier parce que j'étais responsable de menaces de mort contre un jeune collègue. Alors, je comprenais pas de quoi il s'agissait. Et même le président des doyens des facultés de médecine d'Île-de-France, de la région parisienne, m'a écrit la même chose. En fait, il y avait un jeune médecin qui avait reçu qui était très actif et virulent sur Internet. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont dû le menacer. Mais c'était plusieurs mois avant que je le connaisse. Il m'a attaqué de façon honteuse. Il m'a diffamé sur Internet. Il m'a accusé publiquement d'être responsable de menaces de mort contre lui. Et heureusement, parce que moi je suis pas trop sûr, j'étais pas sur Twitter tout ça, mais j'ai des amis qui avaient fait des captures d'écran. Il avait avoué au mois d'août qu'il avait eu ces menaces de mort 4 mois avant que je le connaisse. Et avant que je parle de
donc
lui
dans les médias. Donc vous n'étiez évidemment pas responsable.
Non, mais c'est pour dire la méchanceté de certains. Et quand je vois le directeur général de l'assistance publique qui s'est appuyé sur des ragots totalement faux. Et en plus, ce jeune médecin qui m'a attaqué au Conseil de l'Ordre, je rappelle qu'il était condamné, qu'il y a eu un avertissement, alors que moi j'ai été totalement blanchi par le Conseil de l'Ordre. Donc je suis très clair, j'ai été sali. Et ça me fait peine pour ce jeune collègue, parce que moi j'ai du respect pour tous les jeunes collègues, mais il a peut-être été manipulé. Mais c'était quand même de la dénonciation calomnieuse.
Si je parlais justement des mots qui ont été employés à votre endroit à l'hôpital, c'est que très rapidement, consécutivement, l'Ordre des médecins vous a aussi montré du doigt. Il y a eu des plaintes qui ont été portées contre vous, plusieurs articles écrits à la lumière de ces plaintes d'ailleurs pour dénoncer vos pratiques, puisque d'autres collègues disaient que vous étiez inadéquat. Or, en octobre 2022, c'est la Chambre de discipline qui se prononce, et je cite, je pense que ça vaut la peine, le docteur Perron, alors vous le savez, parce que les quelques fois où on vous a invité à en parler, vous avez entendu probablement les mêmes phrases, le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique. S'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime de le faire et en avait même obligation dans ce domaine qui relevait de ses compétences. C'est très intéressant, on avait obligation dans ces domaines qui relevaient de ses compétences. Il s'est par ailleurs borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. On a beaucoup moins commenté ce que la Chambre de discipline a dit à votre sujet.
Ah ben oui, parce qu'il y avait des dizaines d'articles dans les grands médias français qui disaient à la Perronne, il va être condamné, il va être radié par le Conseil de l'Ordre. Et quand il y a eu l'avis du Conseil de l'Ordre qui est sorti, plus personne n'en a parlé. Je crois qu'il y a eu un journal, je ne sais plus lequel, qui avait dit « Le professeur Perronne a-t-il vraiment été blanchi ?» Puis en fait, il y avait... Souvent, j'ai remarqué quand on m'attaque, le titre est très violent Et puis l'Arctique, il n'y a rien. Un jour, vous savez, quand ils ont fait le coup de la variole du singe, parce que comme ils ne savaient plus quoi inventer il y a 2 ans, ils nous disent, ça y est, déclaration d'une nouvelle pandémie de variole du singe. Alors j'étais étonné parce que le virus de la variole du singe est proche du virus de la variole humaine. Alors le virus de la variole humaine, pour rappeler, a disparu grâce à la vaccination. Bon, il est encore dans des laboratoires en Russie, aux États-Unis officiellement, mais il n'y a plus de virus humain. Et le virus du singe est beaucoup plus bénin pour l'homme, parce qu'il n'est pas bien adapté à l'homme, mais il y a eu des cas humains en Afrique de temps en temps, rarement mortels, mais ça a pu arriver, parce qu'en Afrique, les gens sont quelquefois très fragiles, parce qu'ils sont dénutris. Et puis là, on nous annonce qu'il y avait une grande pandémie de variole du singe. Et puis alors, je regarde à l'époque un peu ce qui se passe, et je m'aperçois que Bill Gates l'avait annoncé un an avant, en disant en mai 2022, il y aura une pandémie de variole du singe. Il est fort, lui, parce qu'il est capable de toujours prévoir un an à l'avant. Et puis, il y avait un médicament préenregistré à l'Agence du médicament européenne qui n'avait jamais été testé chez l'homme, qui était le futur médicament miracle de la variole du singe. Et puis, la variole du singe est partie dans 15 pays différents, le même jour, en Australie, en Suède, en Suisse, en Argentine, au Canada. Et j'avais fait un article pour dire que c'est pas possible. Alors là, j'avais adoré parce qu'il y avait un journaliste qui avait fait un grand article et le titre était « Tous les chercheurs de l'INSERM ». Donc l'INSERM, c'est l'Institut de recherche officiel français pour la recherche médicale. Tous les chercheurs de l'INSERM contre le professeur Perron. Alors, je lis le titre, je dis, oh là là, si j'ai tout l'INSERM contre moi.
Ça fait beaucoup.
Je lis l'article. Et en fait, il y avait un gars qui était pas directement de l'INSERM, qui était de l'agence du SIDA, mais qui est rattaché un peu à l'INSERM, qui me critiquait. D'ailleurs, et moi, j'apportais que des preuves sur tout ce que je disais. Il a pas du tout contre-indiqué point par point, contre-attaqué point par point. Juste dire, Perron dit des bêtises. Et là, j'ai appris après par des journalistes qui sont des copains qui m'ont dit, ben, t'inquiète pas maintenant. C'est pas les mêmes équipes qui écrivent les titres que le journaliste qui écrit l'article. Parce que les gens, souvent, dans le métro, quand ils regardent sur leur téléphone...
On se contente du titre.
Ils regardent le titre.
Mais à chaque fois que vous me dites Bill Gates, je me dis, ah, est-ce que ça vous disqualifie? Parce que l'idée qu'il y ait un grand responsable de toutes les calamités... peut-être que c'est possible, mais entre nous...
Oui, ben Bill Gates, moi j'ai vu son action à l'OMS, j'ai travaillé à l'OMS pendant des années.
Racontez.
Alors c'est lui qui est le premier fournisseur financier, il y a la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates en premier, puis après il y a Gavi qui est Global Alliance for Vaccine and Immunization qui est aussi une dépendance de Bill Gates. Et puis après, il y a l'industrie pharmaceutique aussi qui contribue beaucoup. Et donc moi, quand j'ai commencé à l'OMS, il y avait un ou deux représentants de cette fondation Gavi dans les réunions internationales. Et au bout de quelques années, il y en avait une dizaine, quoi. Ils ont proliféré. Et j'ai vu comment tout avait été infiltré. Et moi, quand j'étais... parce que Bill Gates, en fait, il touche énormément d'argent des États. Bill Gates, il gagne de l'argent, il est pas là pour dépenser, hein, faut le savoir. Donc moi, quand j'étais même au ministère des Affaires étrangères, à l'époque, j'étais président du Haut Conseil de la Santé publique avec un tout petit groupe de l'élite française. J'étais avec le directeur de l'Institut Pasteur, tout ça. J'étais invité dans des salons dorés. Il y avait les gardes républicains, sabre au clair, les tapis rouges, des beaux salons dorés. Devant moi, à 3 mètres de moi, il y avait Laurent Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui remettait un énorme chèque au nom de la France à Bill Gates. Et depuis, Macron a redonné plein de chèques. Il l'a dit publiquement.
Des chèques pour?
Pour financer les actions de Bill Gates. Bill Gates, il finance...
Mais avec l'argent des autres?
Avec l'argent des autres.
C'est le rebais des bois.
C'est un type qui est futé. Hein, je veux dire.
Et on peut démontrer ça? Qu'il reçoit de l'argent?
Macron l'a dit lui-même. Ouais. Moi, quand j'y étais, je peux le dire. Et d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois dans les médias. J'ai jamais été démenti. J'étais dans la pièce. Alors, que Fabius vienne dire le contraire, ce sera difficile, hein, parce qu'il y avait des témoins.
Mais s'il voulait notre bien, alors je fais l'avocat du diable. Ouais. Si M. Gates n'était animé que parce qu'il est plus sachant que nous tous. Là, vous voyez évidemment que je suis un peu ironique, mais s'il voulait notre bien et que tout ça était pour faire en sorte que nous vivions collectivement mieux.
Il faudrait lire le livre de Robert Kennedy Jr.,
vous savez systématiquement tacler sur la place publique, voilà. Montrer du doigt aussi.
Mais, parce que son livre, c'est un avocat, il a fait 40 ans d'enquête sur l'industrie pharmaceutique. Alors, le livre en français s'appelait Bill Gates... Il y avait Big Pharma, Bill Gates, et je sais plus dans quel ordre, mais enfin, j'ai écrit la préface de l'édition française. Et honnêtement, au début, j'y croyais pas trop. Quand j'ai lu le livre, j'étais impressionné. Il apporte toutes les preuves sur des crapuleries faites dans les études cliniques. Il est écrit en disant, il dit n'importe quoi. Il est avocat, ce n'est pas un idiot comme ça qui se lance à écrire des choses sans preuve. Il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation en justice aux États-Unis. Parce que tout ce qu'il dit, j'étais impressionné, il y a des dizaines et des dizaines de pages de références où tout ce qu'il dit est prouvé. Et quand on lit ça, ben, on est impressionné par ce qui se passe.
Alors, est-ce qu'on est collectivement crédule et on arrive effectivement à disqualifier, décrédibiliser ceux qui disent ce qu'on ne devrait pas entendre, dans le fond?
Ben, crédule, effectivement. Moi aussi, j'étais crédule et j'en veux pas aux gens qui sont crédules. Vous savez, c'est difficile pour les gens d'accepter aujourd'hui, alors que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on pensait enfin sortir des tyrannies, être en démocratie, avoir un avenir merveilleux pour nos enfants, de se dire non, maintenant on est face à des gouvernements qui ne veulent pas notre bien.
Qu'est-ce que vous croyez maintenant?
Ah ben bien sûr, ben, ils veulent pas notre bien, ils veulent nous contrôler et c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays dits occidentaux, hein, parce que il y a beaucoup plus de liberté aujourd'hui, je pense en Asie, en Afrique ou même en Russie. Je dis pas que Poutine ce soit un grand démocrate, mais
je sais pas si je serais prêt moi à déménager demain matin à Moscou.
Ah ben moi si je suis inquiété en France, je préfère vivre à Moscou, c'est clair. Hein, je veux dire il y a une liberté d'expression aujourd'hui en Russie.
Vous pensez vraiment ?
Ah ben, je le tiens de journalistes russes qui viennent en France, qui sont sidérés. Et même, moi, ce qui m'a frappé, j'ai eu dans mes patients, parce que bon, maintenant j'ai pris ma retraite, mais encore pas si longtemps, j'avais des patients en consultation. Certains venaient des pays de l'Est. Ils étaient nés à Varsovie, en Yougoslavie, du temps du communisme. Et quand ils ont vu ce qui se passait en France, déjà ils m'en parlaient il y a 4 ans, 3 ans, oh là là, ce qu'on est en train de voir s'installer en France et dans les autres pays, ça nous rappelle tellement ce qu'on a vécu à Varsovie ou à Belgrade ou à Prague, à l'époque, la pire époque de l'Union soviétique et de la dictature communiste. Et ça, ce sont des malades des pays de l'Est, ils l'ont tout de suite senti. Ils ont, alors que les Français continuaient à être manipulés par les médias.
Mais vous savez, comme moi, qu'en disant « si je suis inquiété, je m'en vais vivre à Moscou », il y a une frange importante de ceux qui vous écoutent qui vont dire ben, « c'est l'idiot utile de la propagande russe ».
Non, mais moi, je suis pas... Poutine, c'est pas un enfant de cœur. Je pense qu'il a fait des choses pas très belles dans sa vie. Ceci dit, bon, il a beaucoup fait pour l'économie russe et les Russes l'adorent. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas spécialement pro-Poutine, anti-Poutine, mais je peux aussi me réfugier en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays. Non, mais je veux dire, c'est pas...
Vous en êtes là à penser qu'il faudra demander refuge?
Pour l'instant, j'en suis pas là, mais peut-être que ça peut venir un jour. Parce qu'il y a quand même des menaces de temps en temps. Heureusement, bon, elles n'ont pas été jusqu'au bout, mais bon...
Quel type de menaces?
De vous obliger à fermer votre bouche. Moi, j'ai pas eu de menaces de mort, hein, je vous rassure, mais on sait que par exemple, on sait qu'il y a quand même 10 dirigeants africains qui ont disparu dans des conditions bizarres parce qu'ils refusaient la vaccination Covid. Bon, il y a eu le président de la Tanzanie qui était le plus médiatisé, mais il y en a eu d'autres. Donc voilà, il faut quand même...
Vous faites des liens, vous? C'est très, très oiseux que de faire un lien de cause à effet entre...
C'est pas oiseux. Pourquoi il y en a 10 qui meurent comme ça subitement? Il se trouve que le président de la Tanzanie, je l'ai pas connu, mais j'étais en visioconférence avec son ministre une semaine avant que le président soit mort. Et c'était une visioconférence internationale dans laquelle j'avais des amis d'ailleurs israéliens. C'était d'Afrique, hein, c'était à la fois en français et en anglais. Il y avait beaucoup de monde et j'avais discuté avec le chef de cabinet du ministre de la Santé de Tanzanie. Et parce qu'il venait de prendre la direction africaine. Il venait de prendre un petit peu de piloter les opérations des pays africains qui refusaient la vaccination Covid. Et ça, c'était pas acceptable pour certains. Et bon, il y a peut-être pas lien de cause à effet. C'est peut-être une coïncidence. Il y a beaucoup de coïncidences. Mais bon, il est mort 8 jours après. Bon, c'est comme ça. Et ça, je suis certain que j'étais en visioconférence. J'étais dans mon canapé, dans mon salon. Et j'ai pas rêvé ce jour-là.
Et vous? Vous voyez donc un lien de parasitage réel entre la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et la grande industrie pharmaceutique.
Ah ben oui, mais ça, c'est évident.
Est-ce que c'était avant Covid? Parce que déjà, j'ai eu l'impression que vous étiez déjà un peu alerté.
Rien que pour la France, quand j'étais interne, jeune assistant, en France, il y avait une vingtaine de petits labos, des moyens labos et des labos plus gros, pharmaceutiques, qui existait en France. Et alors souvent, c'était des laboratoires familiaux. Les plus gros labos, il y avait Roussel Uclaf, il y avait Ron Poulenc, il y avait... parce que Sanofi est venu après, il y avait pas mal de laboratoires. Ils avaient aussi des centres de recherche dans leur laboratoire. Ils payaient des chercheurs. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus aucun chercheur dans l'industrie pharmaceutique. Tout est...
Excusez-moi.
Oui.
Il n'y a plus de chercheurs dans l'industrie pharmaceutique.
Ils achètent. Ils regardent ce qui se passe. S'ils voient qu'un gars crée une innovation, un brevet innovant dans un pays, ils vont racheter le brevet, ils vont le développer. Mais ils ne payent plus des chercheurs à temps plein dans des laboratoires. Je le sais, avant, il y avait Roussel Uclaf qui avait un centre de recherche dans la banlieue nord-est de Paris, j'avais visité. Il y avait Sanofi, bon, c'était Ron Poulenc à l'époque, il y avait un centre du côté d'Antony, bon, j'ai à la Croix de Bernis, ça, j'ai visité ces centres, il y avait des vrais chercheurs. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de chercheurs dans l'industrie pharmaceutique. Ils achètent des choses qu'on leur fournit, ça, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai connu ces petits labos, pas tous petits, mais... j'ai connu des présidents directeurs généraux de ces labos qui étaient des braves gars, qui avaient une tradition familiale, qui étaient ouverts. Ils étaient prêts à financer un petit peu à leur risque des recherches un petit peu qui n'étaient pas forcément des recherches officielles. Ils n'étaient pas sous la pression comme ça des gouvernements, des grands lobbies internationaux. Et puis alors, tout ça a été racheté. De 20 labos, on est passé à 2 laboratoires ou 1, parce que maintenant en France, à part Sanofi, il n'y en a plus beaucoup. Et maintenant, ils sont aux ordres de lobbies internationaux et ce n'est plus du tout la liberté de penser qu'avaient ces laboratoires. Et regardez, dans les années jusqu'aux années 80, beaucoup de molécules innovantes dans le monde, que ce soit sur les neuroleptiques, les antibiotiques, d'autres classes thérapeutiques, c'était des brevets français. Développé par des chercheurs français dans l'industrie pharmaceutique française, à la grande époque de l'industrie pharmaceutique française, qui a été très glorieuse. Et maintenant, l'industrie pharmaceutique française, ce sont des marketeurs, c'est plus des scientifiques qui sont couchés devant des lobbies. Et maintenant, moi, je l'ai vu parce que, vous savez, je suis allé voir des grands dirigeants de l'industrie pharmaceutique en France pour la maladie de Lyme, pour financer de la recherche. Ils s'en foutent complètement. Le seul truc qui les intéresse, c'est pas que d'améliorer la vie des Français, c'est juste de voir quel va être le taux de l'action dans 3 mois à Wall Street. C'est le seul truc. Eux, ils ont des actionnaires qui les financent pour avoir le retour sur investissement. Donc, l'industrie pharmaceutique s'est totalement déconnectée de ce qu'elle était encore il n'y a pas si longtemps, il y a une 20aine d'années.
Parce que vous concédez qu'il y a eu des bénéfices substantiels pour l'humanité avec les médicaments modernes et ces grandes industries.
Bien sûr, je ne suis pas anti-médicaments, je ne suis pas anti-vaccins. Il y a eu des médicaments qui ont vraiment fait des prouesses incroyables. Mais quand on voit que maintenant, des médicaments, les études sont bâclées, sont souvent frauduleuses, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est les rédacteurs en chef des plus grands journaux médicaux du monde, comme le New England Journal of Medicine, le Lancet, qui l'écrivent. C'est pas Perron qui l'écrit, c'est eux qui l'écrivent. Notre journal est corrompu. Il y a 2 rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine qui ont démissionné en disant on est écœuré. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le rédacteur en chef est venu pour dire qu'il était écœuré par son journal, mais il est toujours rédacteur en chef. Vous m'avez expliqué. Puis en plus, il continue à publier des études frauduleuses. On l'a vu avec la hydroxychloroquine. On sait que maintenant, il y a un système où ils ont acheté aussi les grands journaux médicaux. Moi, je le sais, parce que moi, j'ai soigné des anciens de l'industrie pharmaceutique en France. Quand ils étaient âgés, ils étaient retraités. Ils m'ont dit, vous savez, monsieur Perron, moi, quand j'ai travaillé dans tel laboratoire, je dirais pas de nom, mais on a passé notre temps à truquer les données pour avoir les autorisations de mise sur le marché, parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir un médicament comme ça régulièrement. Donc, je le sais très bien, ils me l'ont dit, tout le monde le sait. Moi, j'ai eu des copains dans l'industrie pharmaceutique, même mes anciens élèves, il y en a qui ont fait des carrières très élevées dans l'industrie au plus haut niveau du monde.
Mais est-ce qu'ils vendent leurs âmes nécessairement en acceptant de passer outre tout ce qu'ils voient et entendent?
Ben oui, parce que sinon ils perdent leur job, ils sont très bien payés. Les salaires au plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est des salaires faramineux. Donc, moi, j'avais un copain aussi, il prenait sa retraite d'un grand labo. Il m'a dit, tu sais, Christian, je pourrais te raconter des tas de choses sur ce que j'ai vu, la corruption dans mon labo, mais je le dirai pas parce que je veux passer une retraite tranquille et je veux pas le dire publiquement. Mais je le sais, c'est pas un seul témoignage, c'est des dizaines de témoignages. Tout le monde le sait.
Tout le monde le sait.
Et
tout le monde se tait.
Dans le milieu.
Mais c'est l'omerta.
Bah, c'est l'omerta, bien entendu. Ça, je suis désolé, mais moi, j'ai des copains au plus haut niveau de l'industrie qui m'ont dit, bah, tu sais, les gars, alors c'était dans le sida, ça peut être dans le Covid, ceux qui vont sur les plateaux de télé, qui emportent la conviction de tous leurs collègues, qui sont souvent des gens haut placés, donc respectés, ben, ils peuvent toucher des millions d'euros, des millions de dollars sur des comptes offshore. Ça, c'est des gens de plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, qui me l'ont dit, et de pas qu'un seul laboratoire. Tout le monde le sait, le gouvernement le sait. Même quand j'ai dit ça lors des médecins un jour, où j'étais inviteur, c'était pas la réunion du procès final, là, mais une réunion intermédiaire, je leur ai dit, mais vous êtes au courant que les gens qui parlent à la télé touchent des millions? Ah oui, on est au courant, mais malheureusement, on n'a pas de preuves, on peut rien faire. Donc, ils le savent. Même le Conseil de l'Ordre en France le sait.
Donc, des manquements déontologiques connus ne sont jamais sanctionnés.
Mais j'ai plein de noms en tête et plein de labos en tête, je ne les citerai pas parce que je n'ai pas de preuves, sinon je vais aller en tôle.
C'est une très bonne idée de vous retenir, je n'irai pas en tôle avec vous non plus.
Voilà, mais il ne faut pas me prendre pour un idiot, je sais très bien tout ça, comment ça marche. Hein.
Vous avez encore des amis, parce que je vous écoute parler, et c'est pas non plus, je me répète souvent, c'est pas un reproche, mais je me dis, j'ai jamais vu ou entendu.
Jamais autant d'amis, y compris l'industrie pharmaceutique. Mais les vrais, quoi, les sincères, même si, bon, je leur en veux pas, ils n'osent pas parler. Ils me disent, ah, Christian, bravo pour tout ce que tu dis, parce qu'on pense tellement fort, on a vécu ça.
Oui, mais que font-ils? Ils ne parlent pas.
Et je sais. Mais ça, je peux pas obliger les gens à parler. Ils veulent passer une retraite tranquille. Ils veulent pas être emmerdés. Ils veulent...
Mais ce que ça dit, c'est que la médecine dans nos pays, et à plus forte raison dans des univers comme le Canada ou la France, où il y a une médecine publique, est sous influence.
Ah ben bien sûr. Et ça, moi j'ai découvert ça. C'est pour ça que je remercie toujours les milliardaires là qui veulent nous contrôler. C'est grâce à eux que j'ai compris qu'on était manipulés bien avant le Covid. Mais regardez la manipulation des facs de médecine, ça a commencé dans les années 20. J'ai découvert ça tout récemment. C'est quand Rockefeller a fait fortune dans le pétrole. Il a acheté toute l'industrie chimique américaine. L'industrie chimique, c'est ce qui a développé les premiers médicaments. Mmh. Et à l'époque, il y avait des centaines de petites facultés d'écoles de médecine un peu dispersées sur le territoire des États-Unis. Il en a fermé plein. Celles qu'il n'a pas fermées, mais il les a contrôlées en disant, si vous continuez à parler de tout ce qui n'est pas médicament chimique, on vous ferme. Et ça, c'est officiel. Hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Le nettoyage que Rockefeller a fait dans les facultés de médecine dans les années 20. Alors, en Europe, on n'était peut-être pas trop touchés, mais depuis la dernière guerre mondiale, moi, je le vois, on était attaqués pour être sectaires. Parce que si on faisait la promotion de phytothérapie de plantes, moi, c'est ma écœurée, l'histoire de l'artémisia avec le paludisme. C'est une plante qui marche merveilleusement bien. On a fait une étude randomisée en Afrique. J'étais attaqué.
Et contesté par plusieurs, vos études.
Ben, pourquoi contester? Réfléchissez.
Parce que ça coûte probablement moins cher.
Bill Gates a dit qu'il ne croyait pas du tout aux plantes. Mais c'est lui qui l'a dit. Et publiquement, dans le film, il y a un film qui s'appelait Malaria Business. On voit Bill Gates qui dit « Je ne crois pas aux plantes. La seule solution pour l'Afrique, le paludisme, c'est un vaccin. » Ça fait plus de 20 ans qu'ils cherchent un vaccin. Ils n'ont jamais trouvé. Même s'ils ont publié quelquefois, s'ils en ont trouvé le vaccin, ça marchait à peine, ça a été abandonné. Bon, là, on fait une étude randomisée. 1000 malades contre le traitement de référence, il n'y a pas photo, ça marche bien mieux, il y a zéro rechute, c'est fantastique.
Mais vous admettez qu'il y a peut-être quelques erreurs méthodologiques.
Alors, j'admets, je vais préciser ça, c'est très bien de le dire, c'est que nous, on avait très peu d'argent, donc on n'avait pas tout, quand on faisait une grande étude de l'industrie pharmaceutique, il y a des milliers de dollars, tout est fait parfait de façon nickel. Il y a eu quelques erreurs dans les bases de données. Mais on l'a dit publiquement, même avant toute cette histoire, il y a eu deux centres où ils se sont trompés dans la liste de randomisation. Ils l'ont pas fait dans le bon ordre. Mais enfin, ceci dit, à la fin, ceux qui avaient eu l'artémisia étaient bien ceux qui avaient eu... Donc, ça changeait pas les résultats. C'était des bêtises. Et puis aussi, ce qu'avaient pas compris nos détracteurs, c'est qu'en Afrique, les infirmiers qui étaient formés depuis 20 ans pour compter les plasmodia, c'est-à-dire les parasites dans les cellules, ils avaient une méthode un peu semi-quantitative, c'est-à-dire qu'ils arrondissaient toujours au chiffre inférieur ou supérieur, mais ils avaient appris comme ça. Peut-être que c'était une erreur, qu'on aurait dû les former de compter autrement, mais enfin, ça changeait rien, parce que de toute façon, quand les parasites étaient à zéro, ils étaient à zéro. Alors, malheureusement, nous, on était naïfs. Quand on était attaqué, c'est pas possible. On a donné nos données publiquement. pour dire, ben, vérifier. Effectivement, il y a eu quelques erreurs, mais enfin, ça, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ça ne change pas les données. On prétend pas que c'est la...
Surtout s'il y a une solution.
Si c'est pas les résultats définitifs, faut que ce soit, redémontré par une étude bien meilleure, randomisée, avec beaucoup plus d'argent pour confirmer tout ça. Et moi, j'avais dit aux gens qui ont donné la base de données aux autres, faites attention, parce que c'est des gens qui nous veulent du mal, ils vont chercher le moins de prétextes. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont dit, regardez, puisqu'il y a trois erreurs, c'est que l'étude est frauduleuse. Et ils ont harcelé le pauvre rédacteur en chef du journal Phytomédecine, qui était un journal reconnu internationalement. Ils ont fait croire qu'on n'avait pas d'autorisation du comité d'éthique. On a eu une lettre du ministre de la Santé du Congo qui a confirmé qu'on avait bien les autorisations. Ils ont fait tout essayé. Les fact-checkers sont tombés. C'était vraiment une meute de hyènes, parce que pour eux, c'était dramatique de dire qu'une plante, ça ruinait toute l'industrie pharmaceutique. Et moi, maintenant, je suis très heureux, parce que de toute façon, l'Artemisia, ça y est, elle est lancée en Afrique. Les Africains l'ont adoptée. Ils s'en foutent qu'il y ait publication ou pas. C'est vraiment le traitement d'avenir du paludisme. Et maintenant, plus personne peut contester. Je pense que ça avance.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. À la hauteur de nos rapports, j'allais dire quotidien, mais il n'y a plus beaucoup de pays où il est facile d'avoir un rapport quotidien avec son médecin, mais à la hauteur de ces rapports, en quoi le parasitage dont je parlais un peu plus tôt change l'équation? C'est comme si, aujourd'hui, un médecin qui prend le temps de faire un diagnostic en parlant avec son patient déjà, parce que pendant des millénaires, le dialogue était au cœur du diagnostic. On pouvait tâter son patient, mais l'écouter. En quoi la médecine moderne est en train de... changer la donne?
C'est une excellente question. Alors, tout d'abord, le gouvernement, en tout cas pour la France, je peux pas parler pour les autres pays, moi je pense que beaucoup c'est pareil, réduit constamment le nombre de médecins. Même si on a tout un petit peu augmenté le nombre d'étudiants il y a quelques années, mais c'était très peu, les médecins sont en voie de disparition en France. Même à Paris, moi j'ai ma sœur qui est plus âgée, son médecin a pris sa retraite, j'ai galéré des mois pour trouver un autre médecin. Bon, c'était une amie, elle m'a dit, bon, pour toi, j'accepte de prendre ta sœur, mais... impossible. Bon, j'ai voyagé partout en France, des régions, il y avait 5 médecins, il y en a plus qu'un qui va prendre sa retraite, c'est la panique, les gens n'auront plus de médecins.
C'est la même chose au Québec.
À moins de 50 kilomètres. Donc ça, c'est volontaire. Ils vont remplacer par les machines à consulter automatiques dans les supermarchés, ils en ont installé. Ils ont donné le pouvoir d'exercer la médecine aux pharmaciens et à des infirmiers qui passent un diplôme d'infirmier à compétences élargies. Donc ça, parce que ce sont des gens moins formés, obéissants, qui vont...
Mais on pourrait faire un procès en corporatisme. On dit, ben, Perron, il prêche pour sa paroisse.
Mais non, parce qu'un médecin, un bon médecin, c'est quelqu'un qui prend le temps, comme vous disiez, de parler. Maintenant, un médecin généraliste n'a plus le temps de parler. Parce que le tarif de la consultation est tellement faible. Quand les gens, j'ai payé 15 euros pour aller chez le médecin, ben, si c'est le serrurier, c'est 500 euros. alors c'est sûr, c'est remboursé par la sécu, mais...
pas le serrurier, par contre.
Le médecin ne prend plus le temps d'écouter, et je lui en veux pas, il a pas le temps. Pour survivre, il est obligé de faire de l'abattage. Un médecin généraliste, maintenant, quand vous prenez les consultations sur le site Doctolib, vous avez des rendez-vous de 10 minutes. Ou un quart d'heure maximum. Après, si vous voulez un rendez-vous plus prolongé, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est pas normal. Un médecin peut... Et là, moi, je l'ai bien vu. J'ai accompagné des gens de ma famille où j'ai des témoignages de mes malades. Le médecin, je lui en veux pas. Il a plus le temps. Quelquefois, il prend l'attention parce que maintenant, il a un appareil automatique. Mais il examine plus les gens. Il les déshabille plus. Il prend pas le temps de reprendre toute leur histoire clinique. Alors moi, ça a contaminé totalement l'hôpital, même les jeunes qui sont appelés à avoir une grande carrière hospitalière, voire universitaire, c'est qu'ils ne soignent plus que des résultats de scanner, d'IRM ou de résultats biologiques. Et si vous rentrez pas dans les cases, vous n'existez pas, vous êtes un malade imaginaire. Moi, je l'ai bien vu avec la maladie de Lyme, il n'y a pas que le Lyme. Et ça, on a perdu cette médecine humaniste, holistique qui prend en compte l'individu dans son ensemble. Parce que si on est
parce
malade...
que le patient n'est pas crédible quand il décrit son mal.
Voilà, ça, c'est pas normal. J'ai toujours dit, si un patient dit « j'ai mal », il ne l'invente pas. Bon, quelquefois, il peut simuler un petit peu. Mais moi, dans ma vie, j'en ai vu des simulateurs, mais c'est une minorité. Puis quand on a un peu d'expérience, on les flaire tout de suite. Mais quand je vois ces malades de l'âme qui souffrent, qui sont paralysés, qui peuvent plus travailler, on leur dit c'est dans votre tête. C'est horrible la maltraitance de la médecine d'aujourd'hui. Qu'on enlève des enfants par des juges à leurs parents parce que l'enfant est malade et paralysé, on dit que c'est la faute des parents. Je dis pas qu'il n'y a pas des abus sur les enfants, ça existe, mais là j'ai vu des cas où les parents étaient parfaitement aimants et tout ça, et j'ai vu des choses atroces. Et cette médecine moderne est en train de se déshumaniser complètement. Il n'y a plus cette relation de confiance entre le patient, son médecin. Moi je suis beaucoup de maladies chroniques parce qu'au début de ma carrière comme assistant, j'ai eu beaucoup de sida. Les sida, c'était des gens jeunes, il y en a beaucoup qui mouraient, c'était quand même une maladie très grave. J'ai suivi pendant plusieurs mois, plusieurs années. Bon, après, heureusement, il y a eu des traitements qui ont commencé à bien marcher. Mais j'avais presque une relation amicale avec mes patients parce que on les connaît, ils font confiance, on les revoit régulièrement. Et c'est pareil avec mes malades de Lyme que j'ai suivis pendant des semaines, des mois et quelquefois des années. Et cette relation de confiance entre le médecin et son patient, elle est fondamentale.
Quel est l'intérêt d'organiser, si c'est organisé, le délitement des rapports entre les médecins et leurs patients, de rendre la médecine froide et distante?
Parce qu'ils veulent que, c'est l'industrie pharmaceutique, veut imposer des médicaments miracles pour des trucs et qu'on obéisse tous. Pourquoi il y a cette nouvelle loi sur les dérives sectaires? Si un médecin n'est pas d'accord avec le médicament qui est promu par les autorités, il peut avoir un an de prison et 300 000 ou je sais plus, dans ces 30 000 euros d'amende, je sais plus le tarif. C'est hallucinant.
L'article 4 de cette nouvelle loi sur les dérives sectaires. Je me permets de vous poser la question à la volée, puisque vous soulevez l'enjeu. Vous auriez pu, vous, comme d'autres, Raoul et d'autres médecins, être mis en taule et à l'amende pour avoir, par exemple, refusé le traitement recommandé?
Bien sûr. Ben oui, c'est ça qui est très grave. Alors qu'on avait raison, parce que maintenant tout prouve que ces vaccins marchent pas, qu'ils ont donné des effets secondaires colossaux, qu'il y a une augmentation de mortalité très importante dans tous les pays qui ont inoculé ces pseudo-vaccins. C'était des produits expérimentaux en plus. Donc c'était interdit par tous les codes internationaux, toutes les conventions internationales interdisent d'administrer de force un produit expérimental. Donc ils ont violé toutes les conventions légales, y compris les conventions internationales. Et c'est tout... Et les gens ont accepté ça parce qu'on leur a fait peur.
Si on était sur une chaîne publique ou un média plus traditionnel, il faudrait que je vous interrompe immédiatement.
Je l'ai déjà dit.
Je vous interromps pour dire, quelles sont les preuves de ces dommages collatéraux, de ces effets secondaires. Et il y a un ministre à la manœuvre ici, parce que vous avez intenté une poursuite, je pense, contre le ministre qui disait qu'il n'y avait aucun effet secondaire au vaccin. Et l'affaire n'a même pas été entendue.
Elle a été entendue parce que... Alors, ils ont rejeté, on a porté plainte contre les 7 juges de la commission qui quand même pas argumenté pourquoi ils rejetaient, parce que dans la loi française, normalement, quand il y a un rejet, les juges doivent
justifier.
Ils l'ont pas fait. Donc déjà, deuxième illégalité. Alors, pour l'instant, on attend, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup d'associations dans Verity France ou Emancic, des associations de victimes du vaccin, qui ont porté plainte en même temps que nous, juste après. Eux, ils n'ont pas encore eu la réponse. Bon, je pense que j'ai pas beaucoup d'illusions, mais enfin, on verra. Donc ça a quand même traîné en longueur, donc l'affaire n'est pas classée, parce que je sais que ça a beaucoup embarrassé, parce que on a porté les preuves, c'est comme toujours, Les chiffres officiels, même si c'est largement sous-estimé, il y a des effets secondaires, des effets secondaires graves, des morts, il y a des statistiques totalement officielles par l'Agence du médicament française, européenne, les banques de données aux États-Unis. Donc c'est pas des choses qu'on invente. Et surtout, mais c'est même reconnu par les autorités, c'est ça qui m'affole. C'est que depuis 2021, il y a une augmentation importante de la mortalité, y compris chez les jeunes, dans tous les pays qui ont vacciné. Mais...
Surmortalité. Alors, vous avais entendu le dire, j'ai fait mes devoirs.
Et une baisse de la fécondité. Alors, Macron l'a reconnu lui-même, il a dit l'autre jour, c'est curieux, il y a une baisse de fécondité chez les Français, il va falloir réarmer les Français, comme si on réarmait les Français pour faire des enfants. Non, mais Et alors,
c'est réarmer la charge du sperme. C'est voilà, probablement c'est ça. De ça qu'il voulait dire.
Parce qu'il y a une chute du nombre de spermatozoïdes. Ça a été montré dans des études depuis quelque temps. Il peut y avoir aussi les perturbateurs endocriniens, des produits chimiques, des pesticides.
Parce que ça précède largement ce genre de soupçon.
Voilà, ça existait depuis 20 ans. Tandis que là, c'était... C'est alors que finalement, c'est ce qu'il faut lire le livre de Pierre Chaillot, qui n'a fait que réanalyser les données officielles des statistiques de l'INSEE, qui est l'Institut National des Statistiques en France. Et sur ces données, on voit que finalement, la petite surmortalité du Covid n'a pas été pire que certaines années de grippe. Bon. En revanche, il y a une surmortalité certaine chez les gens très à risque, comme je disais, les gens très âgés avec des facteurs de risque majeurs. Mais là, il y a une surmortalité qui touche des jeunes et qui n'était pas liée. Parce que moi, je l'ai vécu, le Covid, à l'hôpital. J'étais encore à l'hôpital. La première vague était méchante pour les gens à risque. La deuxième vague était encore un peu méchante. À partir de la troisième vague, le Covid, c'était fini, quoi. C'était des maladies bénignes, des rhumes, des bronchites. Alors, je dis pas qu'il y a encore eu des morts, hein. Il y en a eu. Mais c'était de plus en plus rare. Parce que le virus, en mutant, j'ai toujours dit d'ailleurs, forcément, il allait être de moins en moins virulent. Ça a toujours été comme ça que ces virus, dit ARN, quand ils mutent. Donc, alors qu'il y aurait dû avoir une mortalité importante si on avait écouté les autorités lors de la première vague, deuxième vague, la surmortalité était très faible, sauf chez des groupes à risque. Et depuis les inoculations expérimentales, on voit une augmentation significative de la mortalité, y compris chez les jeunes. C'est ça qui est terrible.
Alors, je disais que j'ai fait mes devoirs parce que je ne voulais pas être pris devant vous à dire oui, sans être capable de contre-argumenter. Alors, vous avez raison. Effectivement, les chiffres de l'INSEE disent qu'en 2022, par exemple, il y a 53 800 décès de plus que ce qui était attendu. C'est une augmentation par rapport à la norme de 8,7%. C'est pas banal. En 23, c'est 4 % de plus de décès qu'en 2019, qui est souvent une année de référence avant COVID, mais c'est moins 5,5 % par rapport à 2022, pour ceux qui auront réussi à suivre. Donc, ce qui m'intéresse dans ça, pour la France, c'est que ce qu'on dit, ce que disent les spécialistes, c'est qu'après une pandémie en général, il y a rarement de la surmortalité parce que les plus fragiles ont tous été fauchés. Oui. Donc, généralement, ça stabilise. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. J'ai vu qu'en Grande-Bretagne, c'est à peu près la même chose, je n'ai pas les chiffres aussi précis. Est-ce qu'on peut faire un lien de corrélation, comme vous le faites, entre la vaccination et cette surmortalité?
Bien sûr, parce que ce que vous dites est tout à fait vrai, cet effet de fauchage, malheureusement. On l'a vu par une histoire qui n'est pas du tout infectieuse. À Paris, c'était au mois d'août de je ne sais plus quelle année, ça fait déjà une dizaine d'années, je ne sais plus la date exacte. Il y a eu une canicule terrible qui a duré 2-3 jours, mais où
2003.
La température ne baissait pas la nuit. Il y a eu, je crois, 5000 Parisiens âgés qui sont morts d'un seul coup en 2 jours. C'était colossal, bon. Donc, il y a eu un pic de mortalité très élevé. Mais comme c'était la plupart du temps des gens très âgés, un petit peu fragiles, je dirais au bout du rouleau, qui seraient peut-être morts dans les mois qui suivaient. Et là, la canicule, bon, c'était pas la faute du gouvernement, mais même si on l'accuse de vrai de ne pas avoir réagi très vite. L'hiver d'après, il y a eu moins de morts parce que beaucoup de personnes âgées étaient mortes l'été précédent pour une cause qui n'était pas prévue jusque-là. Donc ça existe, cet effet de fauchage voilà. Mais là, ce qui est très différent, c'est que le Covid a fauché des personnes âgées et maintenant, post-ère vaccinale, ce sont souvent des gens jeunes qui meurent. Donc ça, cette explication ne tient pas la route.
Alors, j'ai pas, moi, pu vérifier effectivement dans quelle proportion les jeunes mouraient. Ce qui m'accable, c'est que si c'est fondé, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de gens pour souligner ce qui devrait être l'évidence?
Ça, je pense que c'est la responsabilité des journalistes. Alors, je ne parle pas de vous, mais pas de tous les journalistes, comme vous disiez, mais ce n'est pas moi qui le dis. Vous connaissez Emmanuel Macron, il est connu en France, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, je parle du Macron, on peut pas dire que je suis complotiste. Macron a, en 3 enveloppes différentes, la première, là, c'était 666 666 millions d'euros qui donne aux médias, je crois que c'était à l'automne 2020.
C'est le chiffre du diable en plus.
Non, mais moi, j'osais pas le dire, mais voilà, c'est Macron qui a dit, il a donné 666 millions. Ben, ça m'avait fait rigoler, je l'avais dit publiquement. Après, il a redonné une deuxième enveloppe pour les vœux à la presse en disant, pour les remercier de, non, je crois que c'était la troisième enveloppe. À un moment donné, c'était au mois de janvier pour les remercier de sauver la liberté d'expression. En tout cas, il avait donné déjà trois enveloppes en deux ans, qui atteignait 3 milliards d'euros.
Ouais, j'ai essayé de chercher le chiffre.
Ah ben, il l'a dit. Non, mais c'est Macron lui-même qui l'a dit. Ça, je peux. D'ailleurs, je l'ai dit 15 000 fois. J'ai jamais été.
Oui.
Parce que ça, c'était les interviews de Macron lui-même.
Alors, il a donné beaucoup de sous et vous pensez qu'il a acheté de la complaisance?
Ben, 3 milliards pour des médias, quand même, ça fait beaucoup. Quand il peut pas donner 1 milliard aux hôpitaux qui sont en train de crever, que les gens meurent aux urgences. Il y a des urgences en France dans des CHU, les gens attendent 3 jours sur un brancard, non nourris, on leur donne pas à boire, une personne âgée peut pas se lever pour aller aux toilettes, et il y en a qui meurent, et ça c'est dans les... Et avec 1 milliard, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmières.
Christian Perron, faisons l'hypothèse que la presse française est sous influence. Faisons cette hypothèse.
C'est pas une hypothèse, c'est une certitude.
Alors, je vous laisse énoncer votre certitude.
Non, mais je l'assume totalement. Alors là,
elle est sous influence. Il y aurait en Angleterre peut-être des journalistes qui sont moins sous influence, en Espagne ou en Italie, pour constater, parce que nous avons tous à peu près également été vaccinés, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Or, je suis très attentif. Je vois que certains disent il y a un os. Mais c'est une toute petite voix. Alors, est-ce qu'on arrive partout à museler l'évidence?
Le contrôle des médias, c'est l'air de la guerre d'une tyrannie. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et quand tous les jours, vous aviez le directeur général de la santé qui vous disait « voilà, tout le monde va mourir, tout le monde va mourir », les gens étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Alors, pendant le Covid, les gens ne voyaient pas des cadavres devant leur porte en sortant. Donc, on les a manipulés. Et c'est pareil. Les médias, dès que si je dis quelque chose, ben Perron, c'est même pas la peine de l'écouter, dit n'importe quoi. Mais jamais, jamais, j'ai été attaqué très souvent. J'ai eu des contre-articles contre moi. Jamais dans ces articles, il y avait un seul argument scientifique un petit peu posé pour s'opposer à ce que je disais. Moi, tout ce que je disais, je mettais les preuves. Eux, ils disent, Perron dit n'importe quoi, mais ils mettent aucune preuve. Et on les écoute parce que...
Ils ont l'autorité.
Ils ont l'autorité, puis forcément, s'ils passent au journal de 20 heures d'une grande chaîne, ils ont des millions de gens qui les regardent. Voilà, et ça, c'est pas normal. Et moi, je pense que les médias jouent un rôle terrible dans cette affaire. C'est pas normal que... Avant, on dirait du temps de De Gaulle, il y avait l'ORTF, il y avait une seule télévision publique. Et c'est vrai qu'on reprochait à la télévision d'être la voix du général, ce qui était possible dans certains... Peut-être pas toujours, mais enfin...
Souvent le cas, oui.
Souvent le cas, il faut reconnaître. Bon, après... Quand avec Mitterrand, il y a eu on a libéré un petit peu les médias, que ça s'est privatisé, tout le monde a applaudi en disant voilà, on aura une diversité. Mais maintenant, quand on voit que les grands médias sont dans les mains de 4 milliardaires, il n'y a plus d'indépendance.
Mais si je vous écoute, Christian Perron, et je suis désolé, je viens de vous interrompre, mais si je vous écoute et je vais au bout de la logique, je pourrais dire qu'il y a une responsabilité criminelle, c'est non-assistance à citoyen en danger, je viens peut-être d'inventer un concept, puisque vous dites que cette vaccination et cette vaccination maintenue, soutenue, engendre une surmortalité.
Ben oui, et vous savez, je l'ai dit, c'était il y a 2 ans, oui, je crois que c'était avant la mort de Montagnier, c'était quelques semaines avant, parce que Montagnier y était aussi. J'étais invité au Parlement du Luxembourg, à la Chambre des députés. J'ai fait un petit communiqué de quelques minutes et je l'ai dit aux députés qui étaient là. Il y avait la ministre de la Santé, il y avait le directeur général de la Santé. J'ai dit, attention, parce que ils étaient en train de discuter l'obligation vaccinale. Et grâce à notre intervention, ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire. Mais je leur ai dit comme ça, j'étais devant eux. Attention, vous savez qu'injecter un produit expérimental, c'est contre les conventions internationales, c'est contre le code de Nuremberg, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Tous les députés qui vont signer ce genre de texte seront un jour condamnés à titre pénal et personnel. Et je l'ai dit aux députés français, je l'ai dit plein de fois dans les interviews. Attention, tout député qui vote des lois comme ça d'obligation sans réfléchir parce qu'ils sont manipulés, un jour, ils se rendent pas compte que... parce que là, pour l'instant, le gouvernement est tout puissant, mais ça va pas durer. Ça, on voit que tout est en train de s'écrouler.
Mais ça fait beaucoup de gens manipulés, hein, Christian Perron.
Bien sûr, mais c'est facile avec des milliards. On achète ce qu'on veut avec des milliards, c'est très facile. Moi, je peux, si on me donne des milliards, je peux manipuler tout le monde. Ce serait pas ma tasse de thé. Mais
vous avez écrit un livre dont le titre était « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» À la lumière de ce que vous dites. Parce que c'est gros, c'est énorme. Ça défrise les sceptiques. Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez commise à travers les 4 dernières années dans votre combat?
Dans cette période-là, moi, je pense pas avoir commis d'erreur. Honnêtement, j'étais prudent. Quelquefois, c'est vrai que je me suis dit, bon, t'as été un peu fort parce qu'il y a, quelquefois, j'ai affirmé des choses, bon, qui sont affirmées totalement vraies, mais sur le moment, j'avais 80% de preuves, mais pas 100%. Bon, quelquefois, j'étais un petit peu vite. Après, je me suis repris des retours de bâton. Surtout aussi, quand je donnais des chiffres très précis, on disait, non, t'as dit tel chiffre, c'est pas exactement tel chiffre. Donc, j'étais plus prudent pour pas donner des chiffres très précis, des choses comme ça. Mais sinon, sur le fond, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir, je suis très fier de ce que j'ai fait parce que, moi, ce qui me fait plaisir, moi, avant le Covid, personne ne me connaissait en France. Hein, bon, maintenant, quand je suis dans le métro à Paris, même à Montréal, même à Bruxelles, en Belgique, partout, dans toute la France, là, j'étais à Saumur cette semaine, plusieurs personnes m'ont reconnu dans la rue. Les gens me disent merci, vous nous avez ouvert les yeux. Grâce à vous, on a vu qu'on n'était pas fous, parce qu'on voyait que ça tournait pas rond, mais vous avez été notre lumière dans la nuit. Et ça, c'est des choses qui me font très, très chaud au cœur, parce que je l'ai pas fait pour ça, mais je me dis au moins, j'ai pu aider des personnes sans les connaître. Et ça me motive pour continuer ce combat.
D'aucuns diront, ça lui est monté à la tête. Vous êtes devenu une star.
Oh non, pas du tout, parce que moi, je suis très modeste. J'ai pas fait ça pour ça du tout. Ceux qui me connaissaient dans ma carrière, ils ont jamais vu que j'avais pris la grosse tête. Pourtant, j'avais des positions importantes. Et justement, ce que les gens appréciaient, d'ailleurs, j'avais gardé tous les témoignages des membres de la commission du Haut Conseil que j'avais présidé quand il y avait le renouvellement pour me remercier, qui étaient pourtant des très grosses pointures de la médecine et de la santé publique en France, ou de la virologie, ou de tout ce qu'on veut. Ils ont toujours apprécié justement ma simplicité, que les rapports étaient, parce qu'ici, après moi je peux être jugé parti, mais ils estimaient assez simple et direct avec moi. Sinon j'aurais pas été renouvelé dans ces présidences pendant 15 ans. Ça, quand quelqu'un est à la tête d'une commission qui l'emmerde tout le monde ou qu'il a la grosse tête, en général, il se fait virer pour n'importe quel prétexte. Ouais, les gens, au contraire, bah, c'est moi qui ai démissionné du Haut Conseil, c'est pas eux qui m'ont viré, ils voulaient me garder le gouvernement. Et c'est moi qui disais ça déraille parce qu'ils nous avaient enlevé tous les moyens, on pouvait plus travailler dans les bonnes conditions. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça, on va droit dans le mur. On a pu, ils nous demandaient plus en plus d'avis, mais on avait de moins en moins de moyens pour analyser ce qu'ils nous demandaient. C'était très dangereux pour moi, j'ai dit, je continue pas comme ça. Donc c'est moi qui ai démissionné parce qu'ils voulaient que je reste.
Il y a un risque d'être victime d'un biais de confirmation, cette idée que l'on cherche toujours là où on sait qu'on trouvera une preuve qui confirme la voie sur laquelle nous sommes, et évidemment aussi une subjectivité qui est le fait de tout le monde. J'ai la mienne, vous avez la vôtre, parce que ce que vous dites est tellement radicalement dissonant de ce qui est entendu. Il n'y a tellement pas de réserve dans ce que vous dites que...
On ne peut pas avoir de réserve si on a les faits devant soi. Quand il y a l'hydroxychloroquine, il ne faut quand même pas oublier qu'Anthony Fauci lui-même, qui était le directeur de la branche maladie infectieuse du NIH, le NIH, c'est comme l'INSERM en France, c'est le grand centre de recherche. Sauf que le budget du NIH, c'est des milliards de dollars, c'est pas la même somme que ce qu'on a en France. Mais Fauci lui-même, dans un grand journal américain, avait écrit il y a plusieurs années que si un jour il y a une épidémie de Covid, quoi, ça s'appelait pas Covid, mais de coronavirus dans le monde après le SRAS, l'hydroxychloroquine serait évidemment le médicament de choix. Bon, c'est lui qui l'a écrit. Après, il a oublié, il a tourné sa veste. Il y avait des arguments en Chine sur le SRAS, après sur le même quand il y a eu le Covid, il y avait même des publications chinoises qui commençaient à sortir que ça marchait. Je l'ai étudié. Bon, Raoul t'en a parlé. Quand j'ai vu sur ces 25 malades la chute de la charge virale, ben, il a été imprudent dans sa com. Il a peut-être dit de façon trop.
Mais 25 malades pour une étude par rapport à celle qui a été faite à Lyon récemment, qui dit et en fait.
Mais non, il y a maintenant Raoul t'en a 30 000 malades.
Mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces conversations, et vous prêchez à quelqu'un qui est très ouvert.
Oui.
c'est qu'on finit toujours par raccrocher sur l'étude qui fait notre affaire.
Et non, alors, parce que 25 malades en statistique, si quelque chose est significatif sur 25, c'est bien plus puissant que sur 1000. C'est la statistique de base. Là, c'était pas sur le devenir des malades à long terme, leur survie, c'était sur la chute de la charge virale. Et là, il avait dit, fin de partie, c'est joué. Il avait raison. Ben, après, je reconnais qu'il était peut-être un peu maladroit dans sa communication, parce qu'il l'a dit de façon trop ouverte et que les gens étaient pas prêts. Mais l'étude, elle était imparable. Elle a été attaquée de façon non scientifique.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette étude de Lyon aujourd'hui?
Vous savez qu'on a publié quand même, on a attaqué le journal qui a toujours pas répondu parce que les données ont été complètement fabriquées. On l'a tout démonté avec un groupe.
Qui a démonté l'étude?
Un groupe avec l'association Bon Sens, dont je suis vice-président, avec des experts. Il y a plus de malades en Belgique qu'il y en a dans l'étude qu'il y en a en Belgique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a des monstruosités scientifiques qui sont impossibles dans une analyse scientifique. C'est visiblement, c'est une étude qui ne tient pas la route. On a demandé la rétractation auprès du journal qui pour l'instant n'a pas
donné obtempéré. On parle d'une étude donc qui faisait la démonstration apparemment
de ce démonstration, qui a inventé l'histoire que la chloroquine n'a jamais, pourquoi il y a des milliards de gens
l'ont reçu,
non mais pourquoi des milliards de gens en ont pris dans le monde pendant 20 ans 30 ans sont pas morts et d'un seul coup sur une étude en France et en Belgique il y a 17 000 morts, mais ça tient pas la route une seconde, tout ça est totalement fabriqué. Et pourquoi, dans les études qui étaient contre, il y en a eu des études qui ont montré que la chloroquine ne marchait pas, on l'a donné le dernier jour,
trop tard,
avant que le malade passe en réanimation. Et moi, j'ai attaqué dans le New England Journal of Medicine, c'est publié, vous pouvez vérifier une lettre, quand l'étude de l'OMS, Recovery, qui était une étude anglaise, mais qui était financée par l'OMS, ils ont utilisé 4 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, qui était une dose toxique, potentiellement mortel, parce que l'hydroxychloroquine, si on l'utilise en surdosage, c'est un médicament du suicide, quand même. Il y avait un bouquin qui s'appelait Suicide mode d'emploi. Il y avait
Donc on peut tuer des gens avec de l'hydroxychloroquine.
Bien sûr, en surdosage, mais qu'on n'a jamais utilisé dans les hôpitaux, dans les pays faisant de la médecine de qualité. Dans l'étude Recovery, ils ont publié dans un grand journal, dans le New England Journal of Medicine, une dose mortelle. Ils ont eu effectivement un excès de mortalité. On l'a écrit. Et justement, dans l'étude récente dont vous parlez des Lyonnais, ils reprennent cette étude dans les études pour démontrer que la chloroquine, c'est dangereux. Alors que nous, on l'a publié en réponse, publié dans le New England Journal of Medicine il y a déjà 3 ans, qu'ils avaient utilisé une dose mortelle d'hydroxychloroquine. Donc, ces gens-là ne sont pas crédibles. Ils sont simplement instrumentalisés.
Mais pour le commun des mortels, le profane dont je suis, un peu plus instruit parce que j'essaie de faire mes devoirs, mais néanmoins, à qui se fier? Parce que certains diront, Perron parle à travers son chapeau, tout ce qu'il vous a dit dans l'entretien, c'est du pipeau, faites confiance.
Tout ce que je dis, c'est prouvé. Oui. Tout ce que j'ai dit depuis des... Vous savez, j'en suis à... Je n'ai pas compté, mais on doit être à 12 de publications scientifiques dans des journaux internationaux, comités de lecture, sur différents domaines, de la crise Covid, sur les vaccins, sur la protéine spike, la protéine de pointe, sur le port des masques chez les enfants à l'école qui était très dangereux, qui a fait chuter l'oxygène chez les enfants. Tout ça, on l'a publié. Alors, on est attaqué en disant, ouais, mais alors, Perron et ses copains, ils publient pas dans les plus grands journaux médicaux, parce que les plus grands journaux médicaux, ils sont achetés, et on peut plus publier. Donc, on est obligé de publier dans des journaux qui sont moins cotés, qui sont plus ouverts, mais voilà, on n'a pas accès quand on est dissident aux plus grands journaux médicaux. Bon, on a essayé même dans la maladie de Lyme, si vous publiez contre la doxa de la maladie de Lyme, vous êtes laminé. Votre article n'est même pas envisagé.
Si c'était à refaire ce combat, compte tenu des dommages collatéraux sur votre vie privée, vous reconsidériez le combat ou...
Pas du tout.
Non.
Pour moi, ce combat est plus important que ma vie. Je peux pas le laisser. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, maintenant j'en ai 3. Je peux pas laisser ce pays partir comme ça. J'aimais la France. Même si quelquefois il y a eu quelques défauts dans l'histoire, mais la France est un beau pays qui était un bel exemple de démocratie. J'adore la culture française. Même si de temps en temps des hommes politiques ont été corrompus, bon, ça c'est arrivé partout, mais on pouvait le tolérer. Mais là, de voir qu'on rentre dans une tyrannie, pas seulement sanitaire, qui est beaucoup plus globale, Moi, je peux pas vivre comme ça sans me battre. Et je sais que je suis menacé, je suis attaqué régulièrement. Mais il faut voir que ça se passe aussi aux États-Unis. Hein. Moi, là, dans quelques jours, là, je vais à Washington et je vais d'ailleurs être invité à parler quelques minutes devant le Sénat américain. Parce que ce que je fais est aussi vu de l'étranger. Il faut pas croire que je suis juste le petit français dans Bruliste.
Je pense pas.
Je suis déjà allé au Québec. Je suis déjà allé dans beaucoup de pays. Je vais aller prochainement encore en Suisse, à l'ONU, à l'OMS. C'est un combat qui est mondial. Et tant pis si j'en ai pris plein la figure. Moi, je pense avec mes tripes. J'ai mes convictions, mon éthique. Je peux pas laisser une petite bande de personnes comme ça faire autant de mal à nos citoyens, aux Français, aux gens en général dans le monde.
Christian Perron, c'est un message retentissant, c'est le moins que je puis dire. Merci, c'est très émouvant de vous écouter quand vous dites que c'est plus important que votre vie.
Ah oui?
J'imagine que vous le pensez aussi.
Oui.
On ne peut pas dire ces choses à la légère. Merci d'avoir partagé ce que vous me direz ne pas être un point de vue, puisque tout ce que vous avez dit est démontré. Alors, Christian Perron, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, je tiens à le dire, la passion. Vous êtes certainement très habité. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez. Si vous avez détesté, vous pouvez aussi liker parce que vous avez détesté. L'important, c'est exactement ce que nous faisons ici à Contact, c'est de faire en sorte que plusieurs opinions puissent se croiser et idéalement même de voir sur notre plateforme des gens qui jamais ne seront vus ensemble sur une autre plateforme. Merci de votre attention. À la réalisation, c'est notre amie Jeanne Croteau, Marianne Grenon est à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.